Aujourd'hui, Richard Kleinsmeiger va parler sous le titre Géographie, pouvoir et géopolitique. En fait, il va donner une concrétisation, il l'expliquera lui-même, une réflexion sur État et territoire, nation et territoire. Je vous présente donc notre conférencier. Il s'agit de Richard Kleinsmeiger, qui est né en 1947. Il vient de l'université de Strasbourg, l'université Louis Pasteur, université scientifique où se retrouvent les géographes. Il est lui-même géographe. Je donne quelques indications sur sa carrière et son itinéraire. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Il a un doctorat de troisième cycle de géographie et une maîtrise de philosophie, et un doctorat d'État et lettres mention géographie. Sa spécialité est donc la géographie, mais avec une ouverture sur la science politique et la philosophie. Il a fait sa carrière essentiellement à Strasbourg, où il a été maître de conférences, maître assistant de géographie, et puis finalement, aujourd'hui, professeur de géographie à l'unité, à l'UFR de géographie de Louis Pasteur. Il est aussi vice-président de cette université scientifique, dont nous avons invité déjà plusieurs représentants, et d'autres viendront, dont notamment au mois d'août Jean-Marie Laine, chimiste et prix Nobel. Je donne quelques mots de ses publications. Il a publié des ouvrages sur l'économie alsacienne, l'Alsace industrielle, une géopolitique de l'Alsace en 1987, et bien sûr sa thèse, contribution à l'analyse géographique de l'Alsace. En 1993, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons aussi invité, il a publié des éléments de géographie politique aux presses universitaires de Strasbourg, et enfin en 1997, aux éditions Anthropos, Strasbourg, une ambition européenne. Donc je lui donne la parole pour 50 minutes sur géographie, pouvoir, géopolitique et l'interprétation concrète qu'il en donne. Merci.
Bien, je vous remercie de votre invitation. Je voudrais donc essayer de préciser un peu le thème de mon propos. Ce sera tout simplement l'État, son territoire et la mondialisation. Je crois que, il n'est pas négligeable de repréciser un tout petit peu, même si M. Michaud l'a déjà un tout petit peu fait, d'où l'on parle. Je suis donc d'une région un peu périphérique, d'une région frontalière, comme l'on dit volontiers. Et c'est vrai que ce n'est pas une situation banale, et aujourd'hui peut-être moins qu'il y a quelques années, puisque je crois qu'il y a un réel débat dans la région où je vis sur la question de ce que représente une région aujourd'hui dans une nation, ce que représente une région dans l'Union européenne, et ce que représente et quel est le statut particulier et spécifique d'une région frontalière. L'autre point de vue dont je parle, c'est celui de la géographie. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes les héritiers d'une géographie qui a été longtemps qualifiée, comme le disait de manière péjorative un peu Yves Lacoste, de science bonne. C'est-à-dire qu'il y avait un propos très descriptif et finalement un peu aventureux sur les questions humaines, qui avait une relation étroite avec les questions du paysage et de la nature. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu un tremblement de terre aux alentours des années 70 quand Yves Lacoste a proposé de revoir la question et de signifier que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, ce qui était le titre d'un de ses ouvrages. Je dirais que le discours géographique a subi une inflexion qu'il avait déjà connue dans son histoire auparavant, Jacques Ancel, ou Friedrich Ratzel à la fin du siècle dernier. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a redécouvert les vertus du discours géographique dans ses relations avec les questions de territoire, avec les questions d'État en particulier, les questions de pouvoir de l'État sur son territoire. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, pour ma part, dans ce que je voudrais vous exposer. C'est vrai que les pères fondateurs de la géographie politique, pour ne citer que l'un d'entre eux, Friedrich Ratzel, qui est cet inventeur de la politische géographie à la fin du siècle dernier, stipulait bien que l'État, il disait, j'ouvre la citation, « l'État se constitue comme organisme lié à une fraction déterminée de la surface de la Terre, si bien que ses propriétés proviennent de celles du peuple et du sol ». L'État, ajoutait-il, est un organisme non seulement parce qu'il articule la vie du peuple sur l'immuabilité du sol, mais parce que ce lien se renforce par réciprocité au point qu'il ne forme plus qu'un et que l'on ne peut penser l'un sans l'autre. Voilà donc fondé, je dirais, dans les prémices de la géographie politique, ce rapport étroit que l'État entretient avec le sol, que bien entendu, déjà les anciens Grecs avaient marqué dans leurs analyses de la polis. Après les nationalismes offensifs de la fin du siècle dernier, ce siècle, qui a quand même été ravagé par un certain nombre d'épisodes pour le moins discutables de l'histoire de l'humanité, c'est vrai que ces nationalismes offensifs, auxquels d'ailleurs Friedrich Ratzel se rattachait peu ou prou, il appartenait à la Ligue pan-germaniste au passage, ces nationalismes offensifs avaient invoqué, je dirais, et invoqué de manière majeure l'importance du sol, la patrie pour laquelle on verse son sang et pour laquelle, effectivement, aucun sacrifice n'est suffisant. On est passé peut-être dans une ère nouvelle, celle des nationalismes plus discrets, mais en particulier là où les États sont stabilisés, l'importance ou l'invocation du sol apparaît aujourd'hui mineure, voire par certains aspects, parfois un peu dérisoire ou surannée. Il me semble néanmoins que nous avons reçu, si je peux dire, en pleine figure, un retour du sol, un retour de bâton, si je puis dire, dans ces revendications territoriales qui nous sont venues de quelques horizons lointains, mais pas si lointains que ça. Finalement, les Balkans sont fort proches, l'Afrique n'est pas très lointaine non plus, et le Moyen-Orient ne l'est pas davantage. Il est vrai que les questions qui ont trait au sol, à sa distribution, à l'édification de frontières sur ce sol, apparaissent le fait de situations où l'État, précisément, révèle des fragilités tragiques et témoigne de son instabilité, parfois chronique. D'évidence, le caractère aléatoire du contrôle du territoire que révèlent ces situations, les Balkans, le Moyen-Orient ou l'Afrique aujourd'hui, inquiète. Inquiète alors que nos situations nous paraissent très rassurantes. Faut-il être absolument rassuré sur tous les plans quant à ce rapport de l'État au sol ? Je dirais que la question aujourd'hui, dans nos pays, est peut-être très et de plus en plus distincte de celle qui s'opère dans des situations où l'État a une installation plus précaire. Et néanmoins, la question du rapport au sol se pose chez nous aussi. Je crois que cette question est traversée aujourd'hui par l'évolution économique du monde, qui peut être elle aussi déterminante de transformation des rapports des États au territoire, et peut-être aussi des transformations de l'État lui-même à travers ces modifications des rapports au territoire. En effet, longtemps, les économies de nos pays ont été des économies à base agricole, qui avaient des besoins d'expansion, tentant d'acquérir le plus de terres possible. On pouvait parler d'économies à base spatio-extensive, si possible des terres fertiles. C'est vrai que les développements de l'industrialisation au cours du siècle dernier et de ce siècle ont créé une véritable liberté de localisation industrielle, par exemple, qui a été révélateur d'une nouvelle liberté écologique de localisation des populations et des activités. Ceci s'est couplé à un phénomène tout à fait adjacent et concomitant, qui est l'urbanisation, et le couplage de l'urbanisation et de l'industrialisation a permis le développement d'une nouvelle géographie de l'occupation du territoire, celle qui est faite sur des nœuds que sont les villes et sur des réseaux qui relient ces nœuds entre eux, les axes. Et cette logique de réseau de nœuds et d'axes a produit cette formidable urbanisation du monde contemporain qui fait qu'on a inversé la situation du monde. On a aujourd'hui bien davantage de monde qui vit dans les villes et de plus en plus, jusqu'à des hauteurs absolument vertigineuses de 80-90% dans certains pays, et de moins en moins d'habitants dans les campagnes. Dans le creux de cette évolution, évidemment, il y a la tertiarisation de l'économie et sa virtualisation récente qui pose la question d'un nouveau rapport dans ce contexte de l'État avec ses territoires, et notamment la question de savoir si les rôles traditionnels de l'État par rapport à son territoire ne sont pas cisaillés parce qu'il est devenu convenu, parce qu'il est convenu aujourd'hui d'appeler la mondialisation et la globalisation. Quid des pouvoirs de l'État sur ces territoires quand l'économie, par ce phénomène particulier dont je voudrais dire quelques mots, qu'est la mondialisation, est de moins en moins nationale, et je dis bien l'économie. Une gestion géopolitique décisive qui, de manière ultime, pose la question des fondements de l'État tel qu'est hérité de ses créations au XVIe siècle, cette question géopolitique majeure est d'une certaine façon posée, parce que il est bien évident que une partie de la raison d'être de l'État, outre le peuple, était le sol, et qu'aujourd'hui la question de ce rapport et de ce contrôle et de cette appropriation du sol est d'une certaine façon posée. Quel est le contexte de cette question du rapport de l'État à son territoire ? Le contexte actuel, pour l'essentiel des États du monde, est bien sûr celui de la globalisation de l'économie, dans lequel s'inscrit un certain nombre de transformations socio-techno-économiques qui peut-être touchent aussi aux fondements traditionnels de l'État. Je crois que le contexte actuel, c'est une formidable révolution agricole. Je crois que le terme n'est pas excessif. Nous sommes dans une situation où, semble-t-il, le vieux paradigme qui est celui de Malthus, la croissance exponentielle de la population et la croissance arithmétique des subsistances, semble profondément remis en cause. Nous avons une population de plus en plus nombreuse et des subsistances qui, d'une certaine façon, satisfont un nombre croissant de populations, avec bien entendu toutes les bémols qu'il faut mettre pour des situations qui ne sont pas dans cette logique-là et qui font que, effectivement, le monde est aujourd'hui clivé, j'y reviendrai. Ce qui est évident, c'est que le sol, le territoire, du point de vue de la production agricole, qui est quand même un élément essentiel, nourrir la population, n'a plus la même importance. La belle expression entre guillemets, de production hors sol signifie bien ce qu'elle veut dire, c'est que nous avons des capacités technologiques de production d'aliments qui ne tiennent plus compte du sol comme ils le faisaient auparavant. Nous avons à travers les biotechnologies, qu'on en pense ce que l'on veut, bien sûr, je ne suis pas du tout qualifié pour en juger, mais effectivement des mouvements de production et des révolutions qui ne font plus du sol agricole une priorité absolue de l'État dans la perspective de nourrir ses populations. Autre élément, si vous voulez, de transformation du contexte, la formidable révolution des transports que nous venons de vivre, que nous sommes encore en train de vivre. Jamais, je dirais, la connexion des populations à travers la planète n'a été aussi importante. Sur des distances de plus en plus longues, à des vitesses de plus en plus grandes. Je pense que Paul Virilio en parlerait beaucoup mieux que moi. Et de fait, il se trouve qu'aujourd'hui, plus aucun État ne peut retenir ses populations, je dirais à moyen et long terme, de circuler. La circulation physique des populations est un fait déterminant à l'intérieur de l'État comme à l'extérieur. Le territoire n'est plus un lieu d'enfermement où sont stabilisés un certain nombre de résidents, même si tout le monde n'accède pas, évidemment, aux grands moyens de transport. Troisième élément du contexte, la formidable révolution de la communication, et on pourrait dire la révolution informatique de notre temps, je dirais même de la fin de ce siècle. Souvent, les fins de siècle ont été traversées par des moments de grandes mutations technologiques et techniques, l'électricité à la fin du siècle dernier, par exemple. Nous sommes dans un monde qui est en train de basculer d'orbite, de changer d'orbite, de sociétés appuyées sur l'énergie, le combustible, le moteur. Nous passons à des sociétés appuyées sur l'information et sa diffusion, où l'électronique joue le rôle majeur et déterminant à travers notamment la microélectronique et la miniaturisation des supports de la communication. Nous assistons à un phénomène tout à fait majeur, dont on n'a certainement pas pris toute la mesure. C'est effectivement la création d'un circuit mondial ou deux circuits mondiaux d'information. Internet en est un. Internet, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'ordinateurs reliés par un protocole standard avec un usage privilégié du réseau téléphonique. C'est une technique, mais sur laquelle circulent des idées, des pensées, des paroles de la Terre entière à la Terre entière. Et cet élément-là, je ne fais pas d'apologie, je constate simplement cette possibilité technique, crée une variété extrême d'informations au plus faible coût, à un coût que nous n'avons jamais connu auparavant. Il m'étonnerait que cette transformation-là, comme l'imprimerie a transformé le monde, n'ait pas d'effet sur la transformation sociale et sur les structures des sociétés. L'imprimerie de Gutenberg a, d'une certaine façon, au moins contribué autant qu'un certain nombre de faits politiques à la suppression de la société féodale. Il n'est pas certain, on peut, je pense, légitimement penser que la création de réseaux mondiaux de circulation d'informations risque aussi d'avoir des incidences sur les structures sociales existantes. D'autant plus que ces circuits d'information par bien des côtés. Si on utilise le réseau téléphonique, ce réseau téléphonique est totalement hors sol, non maîtrisable puisqu'il passe par les satellites, et à ce niveau-là, le sol n'est absolument plus un obstacle à la circulation. Et enfin, un quatrième élément du contexte, je dirais, c'est la débellicisation du monde. Débellicisation, c'est un terme qui vient d'un auteur anglais, qui est quand même un phénomène très particulier et qui est peut-être issu, je dirais, de la fin de ce siècle. La dissuasion nucléaire qui a fait régner cet équilibre Est-Ouest, enfin, et cette non-guerre, cet état de non-guerre, sinon de guerre froide, que dénonçait à certains moments de son existence Jean-Paul Sartre, eh bien, cette nucléarisation du monde a rendu totalement abstraite, d'une certaine façon, la guerre. Du moins dans nos pays qui avaient été habitués, et à leur corps défendant, si je puis dire, dans tous les sens du terme, à une guerre des États, une guerre sanglante sur le sol, et sur le sol de l'Europe. Cette situation rend évidemment terriblement inquiétantes les situations où, au contraire, la guerre physique reprend ses droits. Ça a été le cas du Koweït, un tout petit peu. Ça a été le cas, beaucoup plus nettement, des Balkans, et en particulier de la dernière guerre qui s'y est déroulée physiquement, si je puis dire, du Kosovo. Mais on a bien vu aussi que dans le même moment, si vous voulez, les grandes démocraties, qu'il est vrai, ont peut-être beaucoup de mal, comme disait Tocqueville, à penser la violence, les grandes démocraties ont mené la guerre. Au Koweït, nous avions encore des troupes sur place. Par contre, au Kosovo, la guerre a été menée avec cet élément qui est certainement, dans le cadre géopolitique militaire, un élément tout à fait nouveau, une guerre où des dommages considérables ont été infligés, avec, en contrepartie, pour les pays qui les ont infligés, ces dommages considérables, aucun mort, aucune victime et aucun dégât. Situation tout à fait étonnante où le sol, finalement, par les moyens de la technique, devient une espèce de non-enjeu pour la guerre, du moins pour ceux qui possèdent la puissance des armes, comme les Occidentaux l'ont possédé. Je dirais donc que dans ce contexte, le sol n'apparaît plus guère comme une contrainte déterminante. Il est instrumentalisé par la puissance de l'électronique et des sociétés qui disposent de cette électronique majeure, cet instrument déterminant de contrôle à la fois des informations et des moyens, je dirais, divers et variés d'intervention sur le sol. Le territoire n'est obstacle que dans les dysfonctionnements, au bout du compte. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la tempête de l'hiver dernier est extraordinaire, parce que nous avons redécouvert qu'effectivement l'électricité circulait physiquement sur le sol. Jamais, je pense qu'on peut dire, la contrainte territoriale n'a été aussi maîtrisée par les États importants aujourd'hui. Ces États importants, dans leur maîtrise du sol, sont néanmoins confrontés à un phénomène qui, lui, par contre, leur échappe très largement et qui est la globalisation économique. Je crois que l'économie planétaire, on peut le dire sans difficulté, est travaillée depuis un siècle par un phénomène déterminant, c'est la création de puissances économiques, j'allais presque dire hors sol, mais en tout cas hors nation. Bien sûr, leur ancrage est d'évidence dans des économies nationales quand elles se créent. On peut se poser la question, posée déjà François Pérou il y a quelques années, quelques dizaines d'années, est-ce qu'on n'assiste pas à un phénomène tout à fait particulier d'entités économiques qui sont en passe de devenir transnationales, c'est-à-dire pour lesquelles l'obstacle, la limite de l'État-nation n'en est plus une. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments qui permettent d'aller penser dans ce sens. Ce phénomène est de multiples dimensions. Il y a, bien sûr, la convergence des marchés qui l'implique. Mondialisation, c'est un marché mondial libéral, bien sûr, où la marchandise, comme les hommes et les capitaux, est censée pouvoir circuler sans entrave. Quel est l'effet de cette mondialisation des marchés? C'est, bien sûr, l'uniformisation des produits. Et pour que ces produits circulent et soient écoulés, un travail d'uniformisation de la demande qui pèse sur les modes de consommation, pèse aussi de manière croissante sur les cultures, avec tous les éléments réactifs que ceci implique et entraîne. Je dirais que Joseph Beauvais n'est pas né, si vous voulez, de rien, d'une culture archaïque, il est né d'une situation relativement déterminante de ce point de vue-là, et je dirais du point de vue de la marchandisation et l'uniformisation des consommations. Ce qui fait que, dans cette perspective, pour ces firmes-là, le spécifique, le local, mais aussi le national, n'est jamais qu'un obstacle à surmonter. La globalisation, la mondialisation, on pourrait discuter longtemps sur les deux termes, c'est aussi une intégration de la chaîne de création de la valeur. Jamais la valeur économique n'a connu une, je dirais, configuration géographique du type de celle qu'elle connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai des collègues géographes qui s'intéressent beaucoup à ces questions, pas assez à mon sens, mais Pierre Vels en a déjà largement parlé. Jamais on a vu le monde et le monde dans son entier, la planète, concourir dans une espèce de séquençage du monde entre la recherche-développement, l'ingénierie, la production, les services et les finances, le monde entier servir à certains nombres de firmes pour leur production. Le monde est en tant que planète intégré dans le dispositif de production et la configuration de la production. Ce qui suppose absolument la possibilité de faire circuler les hommes, les capitaux et les marchandises, mais surtout les hommes et les capitaux dans ce contexte, et contribue de manière majeure à une transnationalisation de la production dans un certain nombre de cadres. Le territoire, à ce niveau-là, et particulièrement le territoire national, n'est plus un obstacle à la constitution, et de moins en moins un obstacle à la constitution, de firmes dont les stratégies sont évidemment planétaires, jouant des spécificités de chacun de ces espaces, jouant aussi des spécificités de chacune de ces sociétés. Il est évident qu'il vaut mieux faire de la recherche-développement dans certains pays où vous avez un dispositif de recherche et de connaissances que dans un dispositif où celui-ci n'existe pas. On a donc une impulsion économique globale qui n'est plus identifiable aux États-nations ou plus guère. L'économie n'est plus raisonnée et analysable en termes de rapports de force entre les nations, de moins en moins. Et il est bien clair que les firmes multinationales peuvent se passer aujourd'hui de s'articuler sur le niveau national. Certaines le font davantage, je dirais paradoxalement, les firmes multinationales européennes le font davantage que les firmes multinationales américaines. Ramsès avait publié un indice de transnationalité des firmes multinationales, où il apparaissait aujourd'hui que les firmes multinationales européennes étaient transnationales, c'est-à-dire avaient des capitaux de variété nationale plus importante, 64%, que les firmes américaines, qui d'une certaine façon, avec un niveau seulement de 43,2% d'indice de transnationalité, sont moins internationales que les firmes européennes. C'est vrai aujourd'hui qu'on arrive encore à assimiler Coca-Cola à l'Amérique. Il n'est pas certain que Mercedes Chrysler, je crois bien que c'est Chrysler, si à Mercedes, soit encore une firme facilement identifiable à court ou moyen terme, ou que Renault-Nissan finisse par être identifié toujours encore à une firme française. La globalisation efface donc le marquage, la délimitation de la planète par les sociétés humaines, en particulier les limites des politiques des États-nations. On a un double estompage, je dirais, des contraintes du sol, qui fait que les contraintes du sol sont estompées par les phénomènes de concentration géographique des activités des hommes, et d'autre part, les frontières nationales sont estompées par la concentration économique des firmes. La mondialisation efface ou contribue à effacer les limites politiques des États-nations. Je crois que sur ce plan-là, il n'y a aucun doute possible. Pour l'instant, bien entendu, individuellement, les États-nations n'ont plus guère le moyen de s'opposer au développement de la mondialisation. Il semblerait que la seule réplique qui subsiste à cette mondialisation de la production soit une réplique citoyenne du type de celle qui s'est manifestée à Seattle et qui est l'expression de l'opinion publique contre un phénomène global auquel, semble-t-il, les États-nations en tant que tels assistent depuis leur balcon. Ceci témoigne-t-il de leur fragilité ou de leur impuissance ? Je vous laisse librement décider de la réponse. Alors, cette mondialisation nous porte à penser qu'un certain nombre d'effets géopolitiques globaux affectent la situation du monde aujourd'hui. Je crois que ces effets géopolitiques globaux sont multiples. Il y a incontestablement, ce qui ne pourrait être passé sous les silences, un creusement des disparités. Un creusement des disparités qui fait que des disparités économiques qui sont qui ont une dimension géographique. C'est-à-dire que le monde se clive de plus en plus. Et l'idée que le clivage riche-pauvre s'accentue est quand même aujourd'hui une idée majeure que reconnaissent la plupart des analystes sérieux de la situation de la richesse dans le monde aujourd'hui. Richesse et pauvreté se concentrent en quelque sorte. Et on voit très bien comment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, une fraction de l'Asie du moins, la plus développée, le Japon et quelques pays complémentaires, peut-être demain quelques pays comme la Chine se rattacheront-ils à cette Asie-là, sont dans une situation de développement qui n'est en rien comparable à celle d'autres sphères continentales, l'Afrique et l'Amérique latine, pour ne citer que ces deux géants démographiques qui sont de plus en plus des nains économiques. Si on prend le simple partage de la croissance du PIB par habitant, par exemple sur une période relativement récente, la période de 73 à 93, pour laquelle on dispose de statistiques relativement fiables qui sont celles de l'ONU, eh bien, la croissance annuelle moyenne pour l'Europe est de 1,8. Pour les pays neufs, c'est-à-dire l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les USA, elle est de 1,4. Et pour l'Afrique, elle est de moins 0,1. C'est-à-dire qu'on a, on est dans une logique de décroissance de la richesse économique si on pense, ce qui est quand même un indice pas inintéressant, que le PIB par habitant est significatif. Alors que sur l'espace planétaire tout entier, on est dans un indice de croissance de 1,2. Ce creusement des disparités, il est continental, mais il se répercute, je dirais, à tous les échelons et à toutes les échelles de l'espace géographique. Dans les continents les plus développés, on assiste aussi au creusement des disparités entre les centres et certaines périphéries, qui ne sont pas toujours aux périphéries géographiques. Il est évident qu'en France, aujourd'hui, nous avons une espèce de périphérie qui est une transversale sud-ouest-nord-est, qui est représentée par des zones de déliquescence économique et notamment agricole, qui ont des charmes paysagers indiscutables, mais les périphéries, aujourd'hui, n'ont pas une logique simplement de distribution géographique. Elles obéissent à des critères socio-économiques forts qui font que le littoral français se développe, mais qu'on a une espèce de transversale interne qui fait la véritable périphérie de l'État. Mais à l'échelle du continent, l'Europe de l'Ouest est surdimensionnée du point de vue de ses capacités économiques et l'Europe centrale, au contraire, dans une situation qui, quels que soient les efforts de certains, laisse pour le moins indésirer. De la même façon que même là où la richesse se concentre, se creusent des disparités, il n'est qu'à parler, si vous voulez, des banlieues et des centres urbains ou des périphéries riches des villes. La distribution géographique est relativement complexe de la richesse dans son ensemble, mais le creusement de disparités géographiques est tout de même un élément phénoménalement marquant, si vous voulez, de nos sociétés par rapport à ce qui se passait il y a encore une cinquantaine d'années. Par ailleurs, je dirais que le deuxième effet géopolitique majeur qui me semble attestable, c'est la formidable désarticulation des relations entre le local, le national et l'international. Si les firmes multinationales ne sont plus obligées d'en passer par le niveau national pour opérer, alors se dessinent, si vous voulez, d'autres logiques d'articulation des échelles spatiales. Là où le niveau national était un niveau incontournable, il semble de manière croissante qu'il y a des logiques de développement économique et de localisation qui peuvent se passer du niveau national. Vous avez ce terme de glocalisation. Pardon, excusez-moi, le terme est un peu barbare. Glocalisation. Ce terme qui vient un peu des théories de Kenichi Omae, un économiste japonais, qui dit quoi ? Ben, qui dit très simplement qu'aujourd'hui, la problématique du monde pour les firmes multinationales n'est plus de savoir si elles vont s'implanter en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en France, ou au Guatemala, au Mexique, ou en Indonésie. Le problème, c'est de savoir quelles régions elles vont choisir pour leur développement. Et que la stratégie normale et attendue d'une firme multinationale n'est plus tant le choix d'un pays, mais plutôt d'une région, qui fait que certaines régions offrent des possibilités stratégiques de développement considérables par rapport au reste de leur pays. Je prends le cas très modeste, et ce n'est pas pour en faire la publicité, même si cette région, je l'adore, je prends le cas de l'Alsace. Eh bien, c'est vrai que l'Alsace a développé, dans ses relations partenariales avec le Japon, une capacité d'accueil et d'absorption et d'intégration d'investissements japonais considérable pour la taille de la région, et ceci en parfaite contradiction avec les injonctions de la Datar, qui ne voyait pas d'un bon œil et qui n'a jamais conçu que ce type de développement-là était possible. Simplement, dans la logique de firmes comme Sony, par exemple, ou Ricoh, qui sont installées dans la région, eh bien, la position régionale est beaucoup plus importante, d'une certaine façon, que le positionnement national, parce que dans cette région-là, il y a un certain bilinguisme, il y a une accessibilité à des marchés proches, à la fois français, allemands, suisses, et pourquoi pas italiens, qui ne sont pas loin, et qui font que la stratégie de la firme multinationale peut se passer, quand elle y est autorisée, ce qui est le cas dans l'Union européenne, peut se passer du niveau national incontestablement. Ce qui fait que les régions ont un positionnement beaucoup plus marquant et beaucoup plus important dans le développement des localisations économiques qu'elles ne l'ont jamais été. Je crois que cette analyse de Kenichi Omae n'est pas tout à fait inexacte. En tout cas, dans le contexte européen, elle est certainement hautement pertinente. Bien entendu, pas toutes les régions. Celles qui ont ces avantages, la Lombardie, la Bavière et la Ruhr ont certainement ces avantages. Il est évident que la Calabre ou certaines régions reculées des Midlands n'auront pas ces avantages-là par rapport à ces firmes. L'autre élément de la désarticulation des relations entre le local, le national et l'international, c'est bien sûr la création d'un phénomène tout à fait majeur qui est la métropolisation du monde. Récemment, s'est tenu ici, sous l'égide de Paul Claval et d'André-Louis Sanguin, un colloque sur la métropolisation. Il est évident qu'on assiste à un phénomène tout à fait étonnant. C'est le développement de la puissance, de la capacité des cités, des grandes villes, à gérer de manière autonome leur développement par rapport aux États auxquels elles sont reliées juridiquement. Cette métropolisation s'appuie évidemment sur la puissance économique des villes. Je crois que c'est Pierre Vels qui citait cette statistique, qui disait que la production de Tokyo aujourd'hui, le chiffre d'affaires, la production de la ville, qui est une ville tentaculaire bien entendu, est équivalente au PIB de la Grande-Bretagne et équivalente de ce fait-là à deux fois le PIB du Brésil, dont je signale au passage que le Brésil, un quart de sa production est assurée par deux villes, Rio et São Paulo. Donc la capacité économique d'un certain nombre de grandes métropoles, il n'y en a pas d'innombrables. En Europe, il y en a deux potentiellement, Paris et Londres, et il y en a peut-être d'autres qui viendront se greffer progressivement sur ce réseau métropolitain mondial. Mais c'est vrai que la capacité des métropoles, aujourd'hui, leur permet de prendre des décisions de développement qui sont, je dirais, hors nation, d'une certaine façon, qui ont une autonomie par rapport au développement national, même si, on peut en discuter longuement. Je crois que nous sommes souvent, en tant que Français, pris dans une logique d'appréciation et de surappréciation, si je puis dire, de l'État et de son poids, de sa capacité d'intervention, qu'on rencontre moins dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, par exemple. Et il est évident que ce mouvement de la métropolisation du monde est phénoménal. Si je ne prends que le cas de la France, qui parle encore aujourd'hui décentraliser les sièges de décision à Lyon, à Marseille, etc. Tous les sièges de décision importants qui existaient encore dans ces villes sont depuis maintenant belle lurette, repliés ou venus à Paris, bien entendu. Ce mouvement est incontestable et quand on dit qu'en 2015, Tokyo aura une population de 28 millions d'habitants, il est évident que ce mouvement ne risque pas de se freiner par la même. Enfin, dernier élément concernant les effets géopolitiques globaux de la mondialisation, c'est l'importance des réseaux internationaux de toute nature qui se greffent sur cette métropolisation du monde, mais aussi sur d'autres logiques d'organisation géographique. Je crois qu'on a parlé de réticularisation, la mise en réseau du monde et de l'économie mondiale. C'est vrai qu'on assiste à une logique de réseau qui est, elle, totalement transnationale. Il existe en Europe, par exemple, un réseau de villes qui s'appelle Eurocité, qui permet à un ensemble de villes de concevoir, au-delà de ce qui était un peu folklorique, les jumelages de villes et leurs associations diverses et variées, de concevoir leur développement de manière un tant soit peu concertée. C'est très embryonnaire, si je prends le cas d'Eurocité, c'est très embryonnaire, ce sont des rapports de gentlemen avec des éléments de discussion, ça ne va pas jusqu'à concevoir, je dirais, un développement de réseau contre d'autres éléments de développement et contre les États-nations. Mais à terme, il est évident que la nouvelle logique géographique est celle des réseaux et des relations entre les nœuds de ces réseaux que sont forcément les métropoles, mais aussi des villes d'autres niveaux et pourquoi pas de petites villes. Cette réticularisation du monde, elle positionne de manière tout à fait différente les questions qui étaient traditionnellement celles des États-nations et de leurs limites. Et j'en viens, si vous voulez, au dernier effet géopolitique dont je voudrais parler, il y en a bien d'autres, enfin, c'est la transformation de la notion de frontière. La frontière qui était l'emblème, si vous voulez, de la géopolitique et de la géographie politique, la frontière qui inscrit dans le sol les limites de la souveraineté des États, qui marque concrètement, si on se promène dans les forêts vosgiennes, on voit encore quelques bornes de la limite frontalière entre la France et l'Allemagne sur les crêtes des Vosges, puisque jusqu'en 1918, il y avait là une frontière qui n'était pas sur le Rhin. Eh bien, ce marquage des limites à travers les bornes frontières, je dirais que ce qui se passe en Union européenne préfigure peut-être ce qui pourrait se passer à l'échelle planétaire à terme si le mouvement, je dirais, d'estompage de l'État-nation qui s'esquisse à travers les différents éléments que j'ai évoqués se poursuit. C'est vrai que la frontière qui était une ligne ou une zone, les deux à la fois, comme le développaient et le démontraient les spécialistes et les analystes de la frontière, il y en a eu en France un certain nombre, Jacques Ancel en était un auteur majeur, mais aussi Pierre Guichonnet et Raffestin. Depuis toujours, cette frontière a eu une vocation à être linéaire. Simplement, quand les relations sont relativement bonnes entre les États qui voisinent cette ligne, elle devient plutôt, disons, une limite zonale, boundary, pour une frontière plutôt au terme anglo-saxon, le terme anglo-saxon, contre la boundary, la limite stricto sensu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est que la zone frontière des degrés divers ne freine plus les circulations des populations, n'entrave plus le déplacement des marchandises et des capitaux, elle n'est plus qu'une zone relativement vide. La ligne aux multiples fonctions étatiques, qu'était la frontière autrefois, devient une limite culturelle et plutôt une zone de culture spécifique où confluent et s'interpénètrent langues et cultures. Par contre, ce à quoi on assiste, c'est à la démultiplication de la frontière sur l'ensemble du territoire. Où sont aujourd'hui les frontières de la France ? Eh bien, je dirais qu'elles sont à Paris. Où sont-elles de manière majeure ? Dans les aéroports. Et on a ce qu'on appelle, ce que certains ont appelé des effets tunnels de la frontière, ce qu'elle n'est plus aux limites, mais elle se trouve déplacée dans des zones où le contrôle technique que représente l'acte fiscal ou le contrôle douanier peut s'effectuer. Donc la frontière est devenue totalement virtuelle, elle n'a plus d'assise terrestre. Je conclurai mon propos, puisque le pari est d'essayer de tenir dans 50 minutes, et je m'approche donc du terme, en disant que ce que je constate de manière forte, si vous voulez, c'est que le rapport de l'État à son territoire est devenu de plus en plus complexe, avec les territoires en général, avec son territoire en particulier. Par rapport à l'image d'une maîtrise absolue du territoire par l'État, image encore dominante dans les années d'après-guerre, c'était une image, mais c'était aussi une visée politique essentielle, déterminante, centrale. On voit s'opérer de nombreux cisaillements par rapport à cette prérogative de l'État, par rapport à cette ambition de l'État et par rapport à cette image de l'État. Ces cisaillements sont, d'une part, l'interférence politique d'un certain nombre d'instances diverses et variées, le développement des organisations pluri-étatiques, l'Union européenne en est une, mais l'ASEAN en est une autre, et vous en avez plusieurs comme ça à l'échelle planétaire, la création d'une nouvelle dimension du droit international, le droit d'ingérence, qui a été appliqué pour, je dirais, la première fois, qui permet, si vous voulez, à certaines instances internationales d'intervenir dans ou sur le territoire d'un autre État, le développement du rôle d'instances non gouvernementales. Bien sûr, tout le monde sait aujourd'hui ce qu'est une ONG, mais dans la pratique, on voit bien comment certains États balbutiants, jeunes, un peu faibles, voient parfois d'un très mauvais œil des gens qui sont là pour venir les aider. Pourquoi ? Parce que ça remet fondamentalement en cause une prérogative d'État, qui est le contrôle de ce qui se passe, et ce qui se fait et s'opère sur leur territoire. Interférences politiques qui viennent cisailler cette image, cette ambition du rapport de l'État à son territoire. Interférences économiques que j'ai évoquées. Des décisions économiques transnationales qui obéissent à une logique de localisation planétaire et pour lesquelles le niveau national n'est plus un niveau ni opératoire, ni discriminant, ni, je dirais, gênant d'une certaine façon. Interférences culturelles, enfin, je dirais que l'esprit world, hein, on parle de world music, on parle de toutes sortes d'éléments qui sont world, et je dirais qu'Internet est world, est mondial. Cette interférence culturelle, c'est quoi ? C'est une intercommunication. Alors on pourra, comme on l'a fait dans ma jeunesse, gloser sur l'impérialisme américain. C'est vrai qu'il n'est pas négligeable et pas totalement absurde, qu'il est en relation directe avec les impératifs et les besoins des grandes sociétés américaines, mais je crois que ça va bien au-delà de cela. Qu'il y a quelque chose qui est en germe, je le suppose ou je le présuppose, et qui est en train de manifester très clairement que la limite culturelle nationale elle-même est peut-être devenue problématique, même si elle l'est moins en France que dans beaucoup d'autres régions du monde. Je suis frappé. Je suis en Alsace, il m'arrive souvent d'écouter la radio allemande. Eh bien, les Allemands n'écoutent plus pratiquement que des chansons anglaises, et exclusivement. Vous n'avez pratiquement plus que de quelques émissions rares où vous avez une petite chansonnette allemande. Bien, ces interférences délitent, je dirais, les modalités traditionnelles d'appropriation de leur territoire par les États. Et je dirais qu'un État maître et gardien du territoire se substitue progressivement l'image d'un propriétaire auquel on aurait subtilisé les bornes de son territoire et certaines des clôtures qui l'entourent. Je crois que l'État est dans cette situation-là aujourd'hui, pour une large part, je le dis de manière projective, bien entendu, c'est de la fabulation pour une part, c'est imaginaire pour une part, mais je crois qu'il y a des éléments du concret et du réel aujourd'hui qui permettent de dresser et de monter cet imaginaire-là. Une ère nouvelle marquée par le flou des pouvoirs de l'État sur son territoire et le flou des limites semble se dessiner. Ce qui n'est pas posé quelques questions que je voudrais poser pour terminer. Je dirais que les représentations, première question, les représentations de l'État dans son territoire ne sont-elles pas déjà en train de prendre le pas sur la réalité de ses possibilités de contrôle concret du territoire ? Les représentations, avec en corollaire la surgescence ou l'apparition de nombreux identitarismes géographiques concurrents de l'État. J'ai quand même été, parmi d'autres, frappé de l'invention, par exemple, italienne de la Padanie, région qui n'existait pas, qui est forgée de toutes pièces, et qui est une espèce de création identitaire tout à fait nouvelle pour l'Italie du Nord. De la même façon que le culte de la côte ouest, la côte est, on assiste à un ensemble d'inventions identitaires, ce que j'appellerais l'identitarisme géographique, qui se superpose aux traditionnelles identités nationales représentées en connexion avec leur territoire. Deuxième question, n'assistons-nous pas à la mise en place progressive d'une nouvelle logique d'appropriation de l'espace terrestre global, avec peut-être l'affirmation de ce que j'appellerais une structure impériale mondiale autour d'un nombre réduit de puissances. Alors la notion de structure impériale mondiale, je ne l'entends pas au sens où nous parlions autrefois des impérialismes, l'impérialisme nord-américain en particulier, mais au sens où existait l'empire des Habsbourg, par exemple, et qui est quoi comme modèle de structuration politique du territoire, c'est l'idée que, en fait, la notion de limite est relativement sans importance, que l'essentiel, c'est d'avoir un cœur de puissance, et je crois que l'Europe, l'Union européenne, particulièrement l'Europe du Nord-Ouest, l'Amérique du Nord ou le Japon représentent bien des cœurs de puissance, par rapport auxquels vous avez une première enveloppe d'États qui sont des États en lien structurel et organique avec ce cœur de puissance, mais qui ne sont pas dans le cœur de puissance, et vous avez des marges périphériques. Eh bien, est-ce que notre Union européenne, avec son Europe du Nord-Ouest consolidée autour de la France, de l'Allemagne, du Benelux, avec ses marges de la première enveloppe que sont les pays autres de la communauté des 15 et ses marges plus lointaines que sont l'Ukraine, la Biélorussie, d'un côté, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qu'on voit très bien en train de s'intégrer dans cette situation de marge, n'est pas une structuration du monde qui est elle-même, je dirais, relativement orthogonale avec le vieil esprit des États-nations tel qu'il a été instauré, développé et diffusé à partir de la Révolution française dans le monde. Je crois que quelque chose est en train de s'opérer qui peut ressortir de cet ordre-là, qui pose à moyen et long terme, peut-être, la question de la viabilité d'une structure étatique qui ne peut plus prendre assise sur un territoire clairement délimité. Une telle évolution appelle peut-être une redéfinition de l'espace et de l'instance étatique comme acteur individuel dans une gouvernance, une régulation globale qui le dépasse, cet État-nation, très largement.
Monsieur, vous avez beaucoup insisté sur les malheurs de l'État de nos jours, qui est en train de perdre ses prérogatives de toutes sortes, notamment le territoire. Mais vous n'avez pas fait de cas du peuple, c'est un autre point de vue, qui peut être considéré comme lui étant le véritable propriétaire du territoire et non pas l'État. En ce sens, que va-t-il advenir des peuples européens, notamment en tout premier lieu du peuple français ? Quand on sait que par son taux de fécondité, dans 15 ans, les Français issus des Français de 1965 seront devenus minoritaires en France, on peut se demander de ce qu'il adviendra de ce peuple et par conséquent de son territoire, si on veut bien admettre que c'est lui le véritable propriétaire de la France. Moi-même, personnellement, je suis né à 3000 km d'ici, dans un pays étranger, et si aujourd'hui je peux me revendiquer comme français, c'est bien parce que ma mère a tenu absolument à ce que je sois élevé dans une culture française, sans même savoir si un jour je me retrouverai en France.
D'accord, merci. Alors on répond tout de suite, à chaque question.
Oui, je vais répondre brièvement. Je me suis volontairement placé du point de vue du géographe, c'est-à-dire de celui qui va vous parler, si vous voulez, du territoire, du sol, de l'espace géographique. Bon, il est évident que cet espace géographique n'a de sens que par rapport à la population qui l'occupe, mais cette population, je dirais, s'inscrit dans un cadre qui est un cadre de normes, de droits, de possibilités d'existence qui, jusqu'à présent, très, très largement, je dirais, déterminé par l'État et particulièrement en France, où le sens et le culte de l'État est très important. Alors, je dirais que la question du peuple est évidemment une vaste question. Je ne suis pas sûr que des personnes qui sont, excusez-moi, je suis un peu sous le coup de l'intervention, qui viennent d'horizons divers et variés ne puissent pas s'amalgamer et se fondre dans un peuple et avoir leur place qui est dans la logique, si vous voulez, de la conception française de la nation. Et qui opère et qui fait que peut-être par certains aspects, alors à contrario, je dirais, et contrairement à vous, j'ai peut-être moins d'inquiétude que pour d'autres situations, la France a une capacité, je dirais, d'intégration et de mise en place, évidemment sur la base d'un modèle relativement contraignant, mais d'association de populations extrêmement variées. Alors la question que vous posez au bout du compte et à laquelle je ne voudrais pas répondre maintenant, c'est qu'est-ce que c'est qu'un peuple ?
Madame.
Oui, bonjour.
Tout en haut, voilà.
Vous avez insisté sur le délitement de la notion classique de territoire national et de frontière dans le monde occidental. Mais comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il apparaisse dans de nombreux endroits dans le reste du monde que les États s'accrochent à leur territoire, que ce soit en Érythrée, en Indonésie ou d'autres conflits interviennent.
Merci.
Je crois que la... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que le territoire n'était plus une prérogative d'État. Je veux dire que simplement le lien ou des États, le lien des États avec leur territoire, particulièrement s'agissant des États développés, connaît une transformation. Il est d'évidence que quand l'État est le seul référent, le référent déterminant de l'existence collective des populations, que cet État n'est pas dans une situation où il peut offrir à ses populations, je dirais, des moyens et des subsistances très très importantes, la référence au sol et à l'État, ça reste une référence déterminante pour la vie collective, beaucoup plus déterminante que dans les situations où finalement la disponibilité des biens, la sécurité est relativement assurée, quelle que soit la transformation de l'État. Donc je crois que, un peu curieusement, aujourd'hui, le rapport au territoire est peut-être l'indice, le marquage d'une certaine fragilité des États qui, en quelque sorte, n'ont que cela pour s'affirmer, ou guère que cela. Certains États ont une culture aussi, hein, forte et développée. Mais il faut bien voir aussi que nous sommes dans des situations un peu particulières où nous avons multiplié ou laissé se multiplier des structures étatiques. Et c'est un peu un des fruits tardifs et pernicieux de la colonisation qui n'était pas viable et que de certaines façons on voit un certain nombre de structures étatiques s'acharner sur la conservation, la préservation, la défense d'un territoire qui est le seul indice de leur capacité à être un État.
Madame.
Oui, bonjour. Donc, est-ce que vous esquissez l'idée d'un gouvernement mondial ? Et bon, j'ai bien compris que vous envisagez des pôles, hein, les fameux cœurs, là, donc l'Amérique du Nord, etc., l'Europe. Mais est-ce qu'au-delà de ça, vous envisagez un gouvernement mondial et comment vous voyez le rôle de l'ONU dans tout ça ?
Bien. Gouvernement mondial, personnellement, je crois que c'est à. Je ne crois pas que je connaîtrai ce développement. Simplement. Ce qui est bien clair, et bon, les politistes en témoignent assez largement, on a substitué au terme de gouvernement le terme de gouvernance. On parle plus de régulation aujourd'hui chez les politistes que de décision. Qu'est-ce qui s'opère d'une certaine façon à l'échelle planétaire ? Et je crois que de ce point de vue-là, les firmes multinationales, dont la puissance économique à travers les concentrations récentes ne cesse de croître. Je crois que c'est quand même un élément non négligeable de la donne. Qu'est-ce qui s'opère ? C'est effectivement un certain nombre de régulations, comme le terme l'indique, bon, je ne vais pas revenir à Michel Aglietta et à d'autres, le terme l'indique, ce sont des situations qui se transforment de facto par un ensemble d'éléments qui sont disposés, si vous voulez. Alors derrière cela, on peut effectivement soupçonner des décisions ou des visées stratégiques, mais si gouvernement mondial il y a, il est de cet ordre-là. Quant au pouvoir de l'ONU pour intervenir sur un certain nombre de questions, je crois que tous les observateurs, je ne suis pas un spécialiste des institutions internationales et encore moins de l'ONU, mais s'accordent tout de même pour attester que cette capacité est des plus faibles. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Tout simplement parce que l'ONU est effectivement, par certains aspects, représentatif ou représentative d'une certaine, je dirais, fragilité de l'État quand il est aussi multiple et aussi peu pesant que sont certains États du système onusien, même si l'ONU a quand même structuré son existence autour de décisions majeures qui ne sont plus bloquées automatiquement comme elles étaient auparavant dans le cadre du conflit Est-Ouest. Alors, gouvernement mondial, le terme est excessif. Je ne crois pas que nous aurons une situation de ce type-là un jour. Y a-t-il un gouvernement de l'Union européenne, par exemple ? J'allais dire, bonne question. Nous avons le sentiment que des décisions se prennent, qui sont des décisions stratégiques, qui engagent la situation de l'ensemble des populations des 15 pays. Mais il semblerait que l'Europe existe comme de soi. En fait, on est dans un processus, je dirais sans en utiliser les grands mots de systémique et autres, qui fabrique en quelque sorte
de la décision sans le dire de manière explicite, mais ne sait peut-être pas le formuler comme tel, si vous voulez.
Monsieur.
Oui, bonsoir. Enfin, bonjour. Pardon. Bon, les États en tant que tels ont beaucoup de soucis à se faire, si j'ai bien compris. Mais je vous pose la question, et la démocratie ? Parce que, comme a voulu le dire quelqu'un tout à l'heure, bon, les peuples, où ils en sont, mais aussi et surtout la démocratie, c'est-à-dire le moyen par lequel on souhaite s'entretenir, vivre ensemble, progresser. Parce que la démocratie, c'est quand même le moyen par lequel eh bien, les hommes peuvent continuer à vivre. Et sans la structure étatique, je vois difficilement qu'on passe que par des relais économiques ou que par le maillage d'Internet. En tout cas, il n'est pas encore suffisamment généralisé aujourd'hui, ce maillage d'Internet, pour être la preuve, pour qu'il puisse faire dès maintenant la preuve de son efficacité dans nos pays européens. Alors, maillage, et puis aussi, quel est l'avenir de toutes les lois qui nous gouvernent ? Parce que là, aujourd'hui, il paraît qu'il y a en cours, en France, 2000 lois en cours d'action. Bon, moi, je ne les connais pas toutes. Qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Ces pauvres lois et nos représentants.
Je peux répondre. Vous savez d'ores et déjà que nos lois françaises doivent être conformes aux directives européennes. Donc, je veux dire qu'on a un déplacement du processus de détermination des normes collectives. Enfin, c'est pas pour autant, moi je ferai l'hypothèse suivante, c'est pas pour autant que nos lois sont aujourd'hui moins bonnes qu'elles ne l'étaient auparavant. Je crois que l'essentiel, c'est que la loi soit votée démocratiquement. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, si directive européenne il doit y avoir, je crois qu'il faut plaider à tous les niveaux pour le renforcement des pouvoirs du Parlement européen. Et c'est vrai que ce qui est peut-être discutable dans le dispositif européen, c'est le rôle, je dirais peut-être parfois surdéterminant, d'un certain nombre de conseils ou de certains commissaires dans l'édification des directives. Alors la démocratie peut se renforcer aussi, pas seulement au niveau national, mais au niveau, je dirais, d'un système pluriétatique comme l'Europe. L'autre question, c'est celle, je dirais, des supports techniques de la démocratie. Dans mon université, nous sommes en discussion, comme ça arrive périodiquement, tous les 4 ans, on a un prurit de discussion qui s'appelle le quadriennal, c'est-à-dire tous les 4 ans, on demande aux universités de se déterminer pour leur avenir dans les 4 ans qui viennent. Alors c'est vrai qu'il y a 4 ans, on faisait essentiellement des réunions, des espèces de grands amphis de garnison, où on discutait, bon, nous on veut développer les nouvelles technologies, nous on va faire la formation continue, etc. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ? Eh bien parce que, bon, j'appartiens effectivement à une université scientifique prestigieuse et qui est sur la pointe du progrès, eh bien on a créé un forum de discussion sur le net. Bon, c'est de l'intranet, c'est-à-dire un réseau interne, mais c'est vrai que les discussions sont aussi vives sur le net qu'elles le sont dans les assemblées générales. Personnellement, je dirais, je préfère le contact physique souvent, mais c'est vrai que la discussion a relativement bien marché. Alors je crois que les supports techniques de la démocratie, ils peuvent être multiples, pourvu qu'il y ait de la discussion, pourvu qu'il y ait des opinions plurielles et contradictoires, pourvu que nous soyons toujours et constamment affrontés, non pas à une seule solution unique qui nous serait dictée par quelqu'un, mais à plusieurs solutions possibles entre lesquelles nous sommes amenés à choisir. Alors, en ce sens, le support, je dirais, eh bien, il peut évoluer. J'avoue que je ne comprends pas, moi qui suis intéressé au vote dans ma région, par exemple, je suis ce qu'on appelle un observateur du paysage électoral alsacien, bien, je ne comprends toujours pas pourquoi on oblige tout le monde à voter encore avec un bout de papier qu'on met dans une enveloppe, etc. Il y a beaucoup de gens qui pourraient voter de manière électronique et ça fonctionnerait. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des rites et des traditions qui ont aussi une vertu. Hein. Je ne veux pas dire le contraire. Et c'est vrai que le forum Internet, c'est bien, mais la discussion physique est vigoureuse avec toutes les sensations, les odeurs, les intonations, etc. C'est pas mal aussi.
Bien. Et juste avant, mardi prochain, la démocratie électronique. Madame.
Je ne l'ai pas fait exprès.
Merci, c'était très intéressant. Le sol est habité par des gens qui parlent une langue. Et qu'est-ce quid de la langue ? Est-ce qu'elle va subsister ? Est-ce que les pays qui n'ont pas une langue, les unifiant, n'arriveront pas à subsister en tant qu'État ? Est-ce que le français... est-ce que la culture va devenir... va remplacer le sol ? Ou bien est-ce qu'elle sera uniformisée ?
Bon, ce qui est un phénomène... Je crois que le rapport aux cultures et aux langues, même si la France n'a pas signé la charte des langues, je veux dire, rien ne devrait normalement l'entraver. Je crois que j'ai parlé aussi de l'importance des régions, par exemple, dans un contexte nouveau. C'est vrai qu'on voit dans certaines régions refleurir des langues un peu oubliées. Et puis, il y a des États qui savent manifestement, ou des structures politiques qui savent manifestement gérer des pluralités de langues. Je rappelle que la petite confédération suisse, avec ses 7 millions d'habitants ou 6 millions d'habitants, gère un système linguistique complexe où 4 langues officielles existent. Le français, l'italien, le Schweizerdeutsch, incompréhensible même pour des Allemands, et puis la langue que personne ne connaît, qui est le rhéto-romanche. Et qui est pourtant une langue, enfin, et que les autorités suisses, helvètes, fédérales, sont obligées, dans laquelle les autorités sont obligées de traduire tous leurs textes. Elle concerne, je crois, à peu près 200 000 personnes, enfin, cette langue. Donc, respecter les langues, les faire vivre, rien, à mon sens, ne l'empêche. Par contre, ce qui semble assez évident, c'est vrai que vous avez un ensemble d'éléments de communication aujourd'hui qui font que c'est en anglais que ça se passe. Et que ça risque de plus en plus de se passer. J'ai qu'à voir la frayeur et l'inquiétude des parents d'étudiants, puisque maintenant on a affaire à des parents d'étudiants, autrefois ça n'existait que dans les lycées et collèges, quant au niveau de langue, si vous voulez, de leur progéniture, quand ils disent niveau de langue, ils n'entendent qu'une chose, c'est l'anglais. C'est-à-dire, est-ce que mon fils aura effectivement le TOEIC anglais, c'est-à-dire ce niveau de langue important, absolument acquérir pour être reconnu dans n'importe quelle situation professionnelle ou pas. Alors, on va se forcer à faire des examens de niveau de langue plutôt que de donner un petit tenture d'anglais, etc. Alors, il y aura une langue latine nouvelle, hein, c'est incontestable, elle existe, elle est déjà là. C'est certain que dans 20 ans, on me demandera, vous voulez faire votre conférence en anglais ou en français ? Je préférerais peut-être, parce que bon, je serais trop vieux à ce moment-là, la faire en français, et que je ne suis pas capable de la faire en anglais en plus, ou moins capable de la faire en anglais. Donc je crois qu'on va coexister avec des systèmes de langues plus ou moins diffusés. C'est vrai que des langues comme le français sont mal parties dans l'histoire, parce qu'effectivement, on a un contexte où, moi je ne sais pas, si vous allez en Grèce, si vous allez en Égypte, vous voyez de plus en plus de gens qui parle l'anglais, et c'est vrai que le français disparaît, il n'est plus l'apanage de plus anciennes générations. Mais inutile de dire qu'effectivement, en France, il y a matière à se battre pour conserver notre langue nationale avec tout ce qu'elle représente en matière de culture, c'est-à-dire d'espoir pour les hommes, parce que la culture, c'est un peu ça, une façon de penser le monde qui peut donner à l'espérer. C'est un des éléments de votre thème, l'espoir. Voilà.
On va prendre encore 3 questions. Donc, monsieur, et puis...
Oui, j'ai bien entendu la conférence du géographe. Les réactions dans la salle montrent d'ailleurs que la vision géographique se réduit parfois à l'actualité, voire à la science-fiction sur le devenir des États. J'aimerais bien titiller la vision de l'historien. Quelles sont les différences et les similitudes avec des situations, des époques où l'État n'existait pas, ou existait différemment, ou existait également des pouvoirs hors sol, sans remonter aux Phéniciens ou aux aristocraties hors sol germaniques, mais simplement quelques noms, la Ligue de la Hanse, les Fougères, qui ont fait et défait des empereurs et qui ont financé Charles Quint, tous ces réseaux que l'Église a entretenus jusqu'au XVIe siècle au niveau de l'équipement des voyages, le fait qu'on n'avait pas de passeport jusqu'au XVIIIe siècle pour passer d'un pays, d'une région à l'autre, etc. Quelles sont les ressemblances, les dissemblances ?
Oui. Je crois, je crois réellement que l'État-nation
sorti de la Révolution avec, je dirais, ses vertus républicaines, ses références qui étaient fortes et qui ont fait une proposition pour la vie collective qui était majeure puisqu'elle a traversé le monde. Hein. Mais c'est la Révolution française, c'est aussi la Révolution américaine. Hein. Les colons américains ont créé, mis sur pied leur constitution avant la Révolution de 89. Bien, cette idée-là, cette référence-là, a vécu dans un cadre qui était celui de l'État-nation, pour le pire et le meilleur, je dirais, à travers deux siècles. J'ai un peu le sentiment, mais je dirais que c'est très subjectif, que nous changeons de registre avec, bon, je ne vais pas faire dans les symboliques faciles, changement de millénaire, etc., mais ce n'est pas de millénaire qu'il s'agit, c'est séquençage de l'histoire, etc., tout simplement, que l'État-nation tel que nous l'avons vécu, tel que je l'ai encore connu gamin, avec tous ses avantages, l'école et puis le reste, est en train de tout doucement tirer sa révérence. Je suis peut-être un peu excessif, je pousse le propos, je ne suis pas de ceux qui souhaitent cela, mais je veux dire, il y a quand même des éléments de constat, et notamment dans des régions comme la mienne, où on est confronté à d'autres modèles d'État, modèles fédéraux, enfin, etc., où on s'aperçoit qu'il y a une adaptabilité. Je dirais que ce n'est pas un hasard, certainement, que c'est un ministre allemand qui propose la fédéralisation de l'Europe. Il y a une adaptabilité, une souplesse qui renvoie à des situations qui étaient effectivement antérieures à celle de la mise en place de cette structure qui a été une structure forte et très encadrante des populations. Alors, je dirais peut-être aussi pour le meilleur et pour le pire, avec certainement les poids des villes dans les ligues. La Ligue de la Hanse, c'est effectivement une préfiguration d'un certain nombre d'associations de grandes cités aujourd'hui qui vont structurer. Le monde n'a pas toujours vécu, je dirais, avec de l'État partout. Nous sommes dans une situation où on a le sentiment d'avoir de l'État partout, mais il faut bien voir que l'État partout, c'est parfois de formidables injustices dans certaines zones où l'État n'est que jamais l'instrument d'un certain nombre de petits groupes qui s'en servent, si vous voulez, pour asseoir des pouvoirs qui sont des pouvoirs, j'allais dire, presque tribaux ou des pouvoirs très, très limités de petits groupes et qui n'ont rien à voir avec les fortes références de l'État-nation que nous avons chez nous.
Oui.
Bonsoir, avant, dernière question.
Il y a des États où on est empêché de voyager. Je suis désolé, on appelle ça des dictatures. Alors qu'elles soient militaires, politiques ou autres, religieuses, il y a toujours une dictature économique aussi, malheureusement, où on ne peut pas voyager. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la concomitance entre l'empêchement de voyager et le fait que ces pays soient opposés au foisonnement du marché, du développement de le nouveau marché, l'économie mondiale, qu'est-ce qu'elle peut faire contre ces pays? La nouvelle économie, elle ne pourra pas s'introduire, si?
Je ne sais pas très bien comment vous répondre, je vais peut-être répondre par le biais. Je dirais qu'il me semble, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que j'ai quand même été très frappé par l'idée que un des symboles que les Russes, on va parler des soviétiques, ont affiché en premier pour manifester qu'ils avaient changé de régime, c'était l'ouverture d'un McDonald's à Moscou. Alors, c'est gênant pour des gens de ma génération qui ont vécu dans un certain culte de l'anti-impérialisme américain, de se dire, mais peut-on dire autrement qu'une certaine libéralisation des marchés, c'est peut-être aussi, d'une certaine façon, un certain nombre de libertés, même si par ailleurs, il y a des contraintes.
Monsieur, dernière question.
Oui. Si j'ai bien compris, vous avez dit que certains États fragiles s'accrochent à leurs bornes, mais est-ce que finalement l'aménagement du territoire, de territoires de plus en plus désertifiés, n'est-il pas aussi une des prérogatives des États qui tiennent une place centrale dans cette mondialisation?
Oui, je crois que personne ne souhaite que les États, même s'ils ne sont plus très clairs sur leurs limites, ne s'occupe pas des zones les moins favorisées. On attend beaucoup des États en la matière. Mais dites-moi aujourd'hui quelles sont encore les capacités de la DATAR d'inverser des logiques de localisation qui font que, eh bien, qu'elles le veuillent ou non, les grandes firmes vont s'installer là où elles ont envie de s'installer. Alors, c'est vrai que ça reste une prérogative et un souci. Et je dirais que l'aménagement du territoire, nous l'avons conçu en France un peu de manière réductrice comme un instrument de politique économique. Dans d'autres pays européens, c'est davantage conçu comme un instrument de politique sociale. De ce point de vue-là, on veut maintenir des équipements dans des zones où, effectivement, du point de vue économique, ils ne sont plus rentables, mais du point de vue social, ils se justifient. Mais cette perspective-là, il faut des États qui ont des moyens d'opérer et de travailler dans ce sens-là pour le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'aménagement du territoire est plus une politique sociale qu'une politique économique, comme ça a été le cas dans la grande époque où l'État français pensait pouvoir être le déterminant majeur de la localisation des activités économiques.
Voilà, merci.